Bien, bonsoir. Nous poursuivons notre cycle de conférences consacré à religion et politique en islam, avec une deuxième présentation consacrée à l'islam prémoderne, mais introduisant cette fois-ci la dimension juridique de cette relation. On a vu récemment dans le monde arabe, à l'occasion des processus de réforme constitutionnelle, combien le droit était présent et central dans cette relation entre politique et religion. Et d'ailleurs, nous recevrons le 2 avril Jean-Philippe Bras, ancien directeur de l'ISM, qui nous parlera de cette relation droit, islam et politique dans les printemps arabes. Mais aujourd'hui, c'est Christian Muller que nous avons le plaisir d'accueillir. Christian Muller est islamologue, directeur de recherche au CNRS, responsable de la section arabe à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Ses travaux portent sur l'évolution du droit musulman à l'époque prémoderne, à travers l'étude de la jurisprudence et des actes notariés entre le 7e et le 15e siècle, tels qu'ils ont été conservés en terre d'islam. Il a publié un grand nombre d'articles en français, anglais et allemand sur ce sujet. Juste quelques exemples de titres. Le nom propre, je vous cite que ceux qui sont en français, parce qu'en allemand, c'est pas encore ça. Donc, le nom propre à géométrie variable, nommé et être nommé dans les actes du Haram el-Sherif de Jérusalem, 8e, 14e siècle. Les ventes de biens immobiliers au 14e siècle, étude des actes du Haram el-Sherif à Jérusalem, us, coutume et droit coutumier dans le fiqh malikite, ou écrire pour établir la preuve orale en islam, la pratique d'un tribunal à Jérusalem au 14e siècle. Christian Muller entretient des liens étroits avec l'ISM, puisqu'il anime avec Jean-Philippe Bras et moi-même un séminaire de recherche sur la charia dans l'histoire à travers les textes, et qu'il est membre du comité de pilotage. Donc, son intervention aujourd'hui portera sur charia, droit et état dans l'islam prémoderne. Donc, tu as à peu près une heure enfin, pour ta présentation et après, on aura une heure de discussion. Merci.
Merci, Nathalie, pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous d'être venus écouter à cette conférence. Dans mon intervention, je vais vous parler de trois notions différentes et les liens qui existent entre elles. Charia, au sens neutre de la normativité islamique, le droit en tant que facteur socio-historique et l'État qui représente l'aspect politique. Contrairement à la pensée moderne qui veut que l'État et ses institutions soient seuls sièges du droit, les sociétés musulmanes ont connu une situation différente, intégrant les nouvelles recherches sur la pratique notariale et judiciaire en islam. Nous revisiterons justement les liens évolutifs entre la normativité islamique, charia, d'une part, l'interprétation du droit par les juristes et le rôle des États dans les institutions judiciaires, d'autre part. Vous avez noté, grâce à l'intitulé de ma conférence, que je me limiterai à la période prémoderne qui précède les réformes légales à partir du 19e siècle. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je me démarquerai dès la période contemporaine. D'abord, islam et politique. À qui obéir en islam? À qui revient l'autorité? La semaine dernière, Pierre Lory a soulevé cette question fondamentale et il a répondu d'un point de vue religieux ou spirituel, en insistant de même temps sur le fait que l'islam est surtout l'interprétation qu'on en fait, et que l'interprétation juridique constituait, je cite, « un centre de gravité de l'obéissance ». Faire les cinq prières et obéir à l'islam. Il existe donc plusieurs façons de se soumettre à l'autorité divine en islam, qui sont tous légitimes dans leur démarche spirituelle ou de l'ordre légal. Mais je vais vous parler d'un aspect peu connu de l'interprétation juridique, le fait qu'elle était à la base du droit appliqué dans bon nombre de sociétés musulmanes pendant plus de 1000 ans. En tant que droit appliqué, le fiqh, mot arabe désignant à l'origine la compréhension, depuis droit musulman, donnait son empreinte aux sociétés et fut un facteur décisif dans la formation de l'islam dans ses aspects extérieurs tels que nous les connaissons aujourd'hui. Un seul exemple pour illustrer ces points. Le mariage en tant que contrat civil et non comme un sacrement de l'Église, avec toutes les conséquences pour une séparation éventuelle du couple, qui est différent de celui de l'Occident médiéval. Donc, l'interprétation juridique islamique, ces normes et lois, nous sont parvenues dans une vaste littérature juridique. Quand je dis vaste, ceci signifie des milliers d'ouvrages rédigés à partir du 8e siècle et dont une grande partie reste à l'état de manuscrits. C'est-à-dire, personne ne les a étudiés dans leur totalité. Il existe, on l'a dit la semaine dernière, actuellement 4 écoles juridiques dans l'islam sunnite. Plusieurs des trois chiites, etc., avec chacune sa propre méthode juridique. Maintenant, à quoi servait cette littérature dans la vie des gens? Expliquait-elle la normativité islamique à laquelle chaque individu se soumettait individuellement, une sorte de déontologie, ou, au contraire, était-elle imposée par les institutions étatiques ou autres sous forme de droit? En tant que déontologie ou éthique, votre conviction personnelle vous incite à suivre les normes et respecter les interdictions. Si ces mêmes normes sont appliquées en tant que droit, le juge décidera de votre comportement, parfois malgré vous. Et vous n'avez même pas besoin de connaître tous les droits pour y être soumis. Le droit, ce sont les experts juridiques. Dans les cas de la France, les juges, procureurs et avocats. Dans les cas du droit musulman, les juges, qadi, les juristes, fuqaha et mufti. Qui décide à son application? Petite parenthèse, l'existence d'ouvrages juridiques ne suffit pas pour affirmer le rôle d'un droit pratiqué. Ceci parce que les normes de fiqh ont aussi, j'insiste sur les « aussi », été transmises en tant qu'héritage d'une pensée juridique et en tant qu'émanation d'une déontologie religiologiste. Je disais tout à l'heure que le fonctionnement du droit musulman est mal connu, voire dénié. Dans la littérature actuelle sur le sujet, vous pouvez encore lire que le droit musulman se caractérise par un décalage entre théorie et pratique. Selon cette position, seules certaines normes concernant les cultes musulmans, les droits de la famille et des héritages, ainsi que les délits coraniques, etc., étaient appliqués. Les autres champs légaux, notamment les droits publics et pénals, auraient été soumis aux législations étatiques ou aux droits coutumiers, pour faire bref. Ce point de vue implique en conséquence que quelqu'un aurait fait le choix parmi les normes issues du fiqh afin de déterminer qui est applicable et qui ne l'est pas, faute de praticabilité légale ou d'intérêt commun, politique, etc. Ce choix de loi pour certains domaines et non d'autres, s'il est fait, doit se faire par une instance qui prend ainsi le rôle de législateur, qui décide donc des lois en vigueur. Or, cette situation existe bel et bien depuis les réformes légales du 19e siècle, époque à laquelle les États ont confié le droit musulman, ils ont codifié le droit musulman, mais cette situation n'existait pas avant. Je m'explique. Les objections faites par les chercheurs sur l'application du fiqh dans sa totalité concernent notamment le droit procédural. Selon le fiqh, un jugement doit se baser sur les preuves orales, par l'attestation des deux témoins, la reconnaissance du défendant ou par serment judiciaire. Pourtant, les tribunaux du juge musulman ont utilisé des actes en tant que preuve écrite. Ceci a conduit les chercheurs à considérer les normes sur la preuve orale comme pure théorie. Or, une analyse minutieuse de certains actes authentiques au Moyen-Âge nous apprend que le juge ratifiait un acte en tant qu'instrument légal, mais seulement après avoir auditionné les deux témoins signataires de l'acte. Ainsi, les témoins signataires exécutaient la preuve orale selon, vous l'avez deviné, les règles du fiqh. Dans un projet de recherche nommé ILM, le droit musulman et sa matérialisation, une équipe de chercheurs a rassemblé plus de 2000 actes légaux de différentes provenances et domaines qui suivent tous les normes matérielles et procédurales du droit musulman. Au vu de ces résultats, l'hypothèse ancienne d'une dichotomie ontologique entre théorie et pratique du droit musulman ne se défend plus. L'interprétation juridique de l'islam s'est faite bel et bien en lien avec les institutions judiciaires en terre d'islam. Je vais revenir à cette question parce que c'est une hypothèse quand même très forte et je vais vous expliquer pourquoi j'arrive à cette conclusion et quelles sont les conséquences. Le fonctionnement de l'interprétation juridique en tant que droit et non en tant que déontologie, que signifie ceci pour les musulmans qui sont soumis au droit musulman ? Je vous donne un exemple. Et pour éviter le châtiment d'adultère et de l'apostasie, je choisis les contrats de mariage sous le régime des fiqh. Nous sommes évidemment dans le passé, avant le 19e siècle. Considérez le cas suivant. Dans un contrat de mariage, certaines clauses donnent à la femme le droit... C'est-à-dire, c'est un acte de mariage rédigé. Vous l'avez rédigé avec votre femme. Certaines clauses, ils donnent à la femme le droit de demander unilatéralement le divorce, sans consentement du mari ou d'une restitution du douair. Ces clauses sont permises par les malikites, mais les hanéfites le rejettent. Que se passe-t-il en droit ? Le juge musulman décide selon les normes de son école juridique. Alors, c'est-à-dire, la femme prend cet acte, elle s'adresse au juge, et lui, il va prendre une décision. Sa décision, le divorce ou non, est contraignant pour les deux épouses. Dans son application par les tribunaux, le fiqh n'est plus une question de décision personnelle. Nous décidons entre épouses de ce qui nous paraît islamique. Non, elle relève d'une décision judiciaire. Par conséquent, dans une société régie par le fiqh malikite, les clauses en question seront utilisées pour définir les droits du divorce. Dans d'autres cas, les clauses ne seront pas pratiquées, faute de recevabilité en tribunal. Elles ne serviront pas à résoudre les problèmes, notamment celle de l'époux disparu, par exemple. Vous voyez donc l'impact que peut avoir le droit islamique sur la vie des gens. Maintenant, dans la conception actuelle de l'histoire de l'islam, le droit islamique ne joue aucun rôle sur le plan sociopolitique. À en croire les descriptions faites par les historiens, la société musulmane médiévale était, pour résumer rapidement, gouvernée par les princes plus ou moins sages ou cruels, et leur pouvoir était basé sur les groupes militaires face à une population urbaine et rurale qui se divisait en groupes socio-économiques, économiques et religieux. À votre retour chez vous, regardez bien vos livres d'histoire sur le Proche-Orient. Vous n'y trouveriez pas un chapitre sur les droits, hormis le livre spécialisé, évidemment. Il est temps de réviser cette vision de l'histoire. Islam et État. Admettons, maintenant pour l'argument, que le fiqh constituait en grande partie le droit des sociétés musulmanes prémodernes. Que changerait ceci pour notre vision sur l'islam et politique, en l'occurrence le rôle de l'État dans le maintien de l'ordre islamique? Merci pour la musique. Nous sommes au milieu du 8e siècle. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Oumayades, le premier calife abbasside décide de ne nommer comme juge que les experts en fiqh, en l'occurrence issus de la direction irakienne, ce qui deviendrait l'école hanafite. Donc, première étape dans ce lien entre État et islam, l'État, ou si vous voulez, le pouvoir politique, prend la décision de légitimer l'exercice de son pouvoir sur le plan légal avec le recours aux droits des juristes. À cette époque, les initiatives de créer un droit d'État, par Ibn Muqaffa, Pierre Lory, on nous a parlé la semaine dernière, ils n'ont pas de suite ou échouent. Dorénavant, dans l'histoire, l'interprétation de l'islam dans son aspect légal ne fait plus partie des prérogatives du calife. Je vous rappelle que certaines règles établies par le premier calife, notamment Omar, ont été intégrées dans le droit musulman. C'est fini. Les califes Umayyades avaient encore la conception du successeur du prophète, Khalifat Rasulullah, ce qui leur donnait la possibilité de légiférer étant à la tête de la communauté musulmane. Ceci face à une situation où l'interprétation légaliste de l'islam, les juristes, n'était pas encore bien développée au premier siècle. Après, ça a changé. Alors, l'autorité de décider ce qui est droit musulman ou droit islamique a été transférée par les califes abbassides à un groupe de spécialistes de l'interprétation. C'est ce qu'on appelle le faqir, pluriel fuqaha. Suivait-il une nécessité politique de légitimer le nouveau régime face aux insurgés, aux anciennes élites arabes? On ne sait pas. L'histoire sur ces points doit encore être écrite, mais une chose est sûre. L'application du fiqh par les juges de l'Empire abbasside en tant que droit fut à l'origine d'un profond changement. L'élaboration d'un système de normes juridiques, dites islamiques, qui suivait ses propres règles et ne dépendait plus du leader politique. Ceci créait un espace de droit unique, celui du droit musulman, qui allait de l'Est à l'Ouest, de l'Asie centrale en passant par l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Égypte et le Maghreb jusqu'à l'Espagne musulmane, en dépassant les frontières politiques. Bref, c'est une vraie histoire de succès ou un succès. Pour illustrer ce saut qualitatif que le fiqh musulman avait acquis pendant la deuxième moitié du 8e siècle sous les Abbassides, voici une question. Connaissez-vous les juristes Hamad bin Abi Sulayman, mort en 734, Az-Zuhri, mort en 742, ou encore Rabia ibn Abi Abdurrahman, mort en 753? Sinon, rassurez-vous, moi non plus, je ne les connaissais pas avant de m'intéresser aux origines du droit musulman. Et j'ai dû chercher leur nom dans les publications très spécialisées. Par contre, le nom Abu Hanifa, Malik ibn Anas et Ash-Shafi, vous sont certainement familiers en tant qu'éponyme des écoles juridiques qui existent à nos jours. Le premier groupe, ce sont les juristes de la fin de l'époque Umayyade, sont les précurseurs et parfois les maîtres directs du deuxième groupe, mais ils sont tombés dans l'oubli. Ceci pour dire deux choses, que l'interprétation légale de l'islam en minuscule existait très tôt, mais son importance et son poids dans la société se sont faits avec seulement l'application du fiqh en tant que droit. Un autre aspect est que l'application de ces droits constituait un des piliers de l'État islamique, dans la période prémoderne, bien entendu. L'État garant de la loi islamique. Qui était donc le législateur? Dans la modernité dans laquelle nous vivons, le droit est surtout associé au pouvoir, le pouvoir de légiférer, en l'occurrence, qui émane du pouvoir politique. Or, les historiens ont du mal à identifier les législateurs du droit musulman. D'où proviennent les règles du droit musulman? Ceux qui s'y connaissent vont dire que les sources du droit sont, pour simplifier, quatre. Le Coran, la pratique du prophète, l'analogie et le consensus. Qui est donc le législateur? Dieu, admettant pour l'argument son rôle en ce qui concerne Coran et Sunna, la pratique du prophète, c'est plus difficile pour l'analogie et le consensus, deux principes qui émanent clairement du domaine humain, le travail des juristes. Si on considère que Dieu guide les juristes et il est, pour ainsi dire, à l'origine de leurs décisions, le rôle de Dieu législateur n'a pas beaucoup à voir avec le sens concret du terme législateur qui formule les lois, parce que ce sont quand même les juristes qui les formulent. Alors, ce sont les juristes qui, sous l'angle technique, sont à l'origine de règles justifiées par l'analogie et l'ijma, les consensus. Donc, pour la question du législateur en islam, selon les points de vue différents, nous aurions deux, voire trois réponses possibles. Dieu, le prophète et les juristes du passé. Cependant, les chercheurs formés avec la notion du droit positif d'aujourd'hui ont du mal à imaginer un droit qui ne reconnaît pas une instance législative humaine. Posons la question, comment les normes du fiqh se créent-elles? contrairement à une idée reçue, le droit musulman ne se limite pas à quelques lois isolées et explicitées dans les textes sacrés. En plus de celles-ci, le droit musulman comporte un nombre considérable de règles qui définissent et déterminent l'application et la portée de ces soi-disant lois. Les règles légales sont issues, très tôt déjà, de l'interprétation faite à partir de la pratique normative du prophète et de sa communauté. Ici, il y a un saut qualitatif. Le prophète Mohammed exerçait l'autorité d'instaurer les lois. Par contre, les légistes musulmans interprétaient la loi islamique selon leurs propres observations et informations disponibles. Sur la base de ces pratiques observées ou rapportées, les légistes en déduisaient certaines règles qui devenaient normatives pour un tel ou tel cas. Avec le temps et dans un processus d'enseignement et de réflexion, les juristes tissaient les normes dans un système susceptible de répondre aux questions posées par les musulmans ou par les autorités. Comment décider en tant que bon musulman dans telle ou telle situation ? Ensuite, n'oublions pas que le tissu des normes juridiques remonte au plus tard à la première moitié du 8e siècle. Ce droit sera formellement légitimé par les biais des méthodes épistémologiques connues à partir du 10e siècle dans une science à part, les usul al-fiqh. Vous trouvez tous ces termes sur les feuilles qui ont été distribuées. Alors, selon cette théorie légale, les sources du droit sont premièrement le Coran et deuxièmement la pratique du prophète, la sunna, comme source textuelle. Ils y ajoutent le consensus des juristes et certaines formes de raisonnement dites analogiques, le qiyas. Encore pour faire bref, cette herméneutique sacrée qui justifie les lois et non l'État islamique. Et l'application de cette herméneutique aux normes transmises crée pendant des siècles suivants, jusqu'au XIIe siècle, un corpus du droit sacré, ce que les contemporains de l'époque ont tendance à appeler charia. Le principe même de la transmission des normes légales au sein d'écoles juridiques, sans que l'État islamique intervienne, reste à la base du droit musulman jusqu'au XIXe siècle. L'État est hors de la question quelles sont les normes légales de l'islam. Revenons au fonctionnement de ces droits sacrés qui dépassent, nous l'avons dit, les lois isolées. Dans le droit des juristes, c'est la casuistique juridique qui donne un sens aux lois isolées. Voici un exemple. Le vol, sarika, qui est puni, selon le Coran, avec l'amputation de la main. C'est une punition hat. Si on appliquait cette règle à tous les vols au sens figuratif et large, sans une condition pour la preuve judiciaire, les condamnations pour vol seraient légion. Pourtant, dans le droit musulman, l'acte de vol est plus restreint par d'autres règles que dans un droit codifié. Plus précisément, si vous voulez, vol en termes légaux du fiqh est seulement la prise d'un objet dépassant un certain valeur qui se trouvait dans un endroit clos, non en accès libre. Et il peut être puni en tant que voleur, il faut en plus la preuve légale, à savoir l'attestation des deux témoins honorables ou la reconnaissance du fait par les voleurs. Donc, vous l'avez compris, le fiqh, en liant l'application et la punition coranique à d'autres normes également sacrées, permet de nuancer la normativité islamique, ce qui lui donne une plus grande fonctionnalité en gardant la légitimité d'un droit sacré. Dans le fiqh, chaque norme est définie par une ou plusieurs règles qui puisent dans la normativité sacrée, soit par un indice textuel, courant au sunna du prophète, ou par un indice intellectuel, soit le consensus ou le raisonnement analogique. La légitimation des règles se fait à plusieurs niveaux et mobilise la totalité des champs juridiques, les pratiques cultuelles et les transactions entre les êtres humains. C'est-à-dire, le fur à ce niveau-là, il forme une unité. Un exemple, le fait de ne pas remplir son devoir de 5 prières quotidiens fait perdre à un homme son honorabilité en tant que témoin et peut nuire à sa profession de notaire. C'est le lien entre, si vous voulez, religion, pratique religieuse et la vie sociale professionnelle. Donc, selon la logique du droit musulman, plus les normes sont justifiées par des racines sacrées, plus cela accroît leur capacité à régler les cas différents en tant que droit sacré. La justification de la norme prime sur sa maniabilité au sein d'une codification réduisant le nombre de lois. Par conséquent, les normes de fiqh sont extrêmement complexes et intercalées parce qu'elles tirent leur justification d'autres normes et principes, différemment justement à un droit codifié. Nous constatons à travers la littérature juridique dite tardive une évolution des règles juridiques à travers une rationalisation en permanence. Et ceci sur plusieurs plans. Par la différenciation casuistique des règles existantes, d'autres concepts sont développés, rationalisés et finalement appliqués à d'autres matières légales. Je pense notamment au concept de l'intérêt commun, Maslaha à partir du Xe siècle et d'autres. Ceci dit, on ne substitue pas des règles existantes et généralement acceptées et on ne crée pas des règles ex nihilo, de rien. Ainsi, on constate un processus évolutif au sein du système de plus en plus complexe de règles juridiques. La validation des règles se fait à plusieurs niveaux de la jurisprudence au sein des écoles juridiques. L'important ici, c'est qu'il n'y a pas une instance législative étatique. Pour expliquer la nature du droit musulman, tel qu'il a été conçu par les juristes au cours des siècles, je suis bien obligé de plonger dans la technicité légale. Ceci est essentiel pour démontrer le raffinement du raisonnement juridique et ses normes intercalées face aux simplifications courantes. Je vous rassure, ceux parmi vous qui ne s'intéressent pas trop au droit peuvent se reposer. J'annoncerai quand ça sera fini. Alors, donc, je prends le cas traité par le fiqh. Comment justifier qu'un enfant ayant tué un être humain doit payer le prix du sang, mais ne sera pas soumis au talion de mise à mort? Pourquoi cet enfant doit payer certaines dettes à travers son représentant légal, mais ne paye pas le prix du sang pour quelqu'un qui l'a blessé? C'est un autre concept qui est utilisé entre la blessure et la mise à mort. Le banqueroutier n'a pas le droit de conclure certains contrats, mais il peut héritier. Par contre, un autre fonctionnaire d'État très corrompu risque de voir ses biens confisqués et son héritage tombe dans les mains du trésor public. Comment expliquer ce que certaines personnes, la majorité de la population en fait, ne sera pas obligée de devenir un expert juridique malgré cette obligation absolue d'aspirer à connaître les lois de Dieu? Ou encore, un non-musulman qui exécuterait les actes cultuels de l'islam ne sera pas récompensé pour ceci par Dieu de la même façon qu'un musulman. Je n'ai pris que quelques exemples pour lesquels un législateur pourrait facilement rédiger et dater les lois à sa convenance. Mais les juristes musulmans, ils ne disposaient pas de cette possibilité. Ils ont dû interpréter certaines pratiques du prophète pour dégager, ici en l'occurrence, au moins 3 concepts séparés de sorte qu'ils règlent les cas mentionnés. Vous avez vu que parfois, ils sont très proches, les cas. Premier concept, la jouissance personnelle, vema, qui intervient à des degrés différents dans les cas du banqueroutier héritier et le haut fonctionnaire corrompu. Deuxième concept, la capacité d'exercice, ahliyat al-ada, qui manque à l'enfant et au banqueroutier. Et la responsabilité, troisième concept, la responsabilité de l'ordre religieux imposé par Dieu aux êtres humains, les taklif, qui intervient dans le cas de l'expert juridique, ainsi que le non-musulman. Alors, pour ne pas plonger dans les arcanes du raisonnement juridique, je vous ai fait peur, je sais, maintenant je m'arrête ici. Mais pour résumer le parcours dans l'histoire du droit musulman et son fonctionnement, on peut dire le suivant. Le monde de l'islam a vécu avec l'interprétation des légistes sur le plan légal pendant plus de 1000 ans. Par conséquent, le droit musulman a profondément marqué les sociétés musulmanes. Par ailleurs, les légistes poussaient l'interprétation ainsi que le recours aux sources de la loi islamique par les biais de l'herméneutique juridique jusqu'à un point où l'idée d'un droit sacré islamique, charia, devenait un concept de plus en plus accepté. Ceci coïncide probablement avec la solidification d'un dogme normatif au sein des écoles juridiques à partir du XIIe siècle. À partir de cette époque, les actes notariés parlent d'une validation shariatique, sahihan shariyan, et les juristes se réfèrent aux normes légales comme normes de la charia. Rappelons, au contraire, que dans le Coran, c'est Dieu qui donne la voie charia à des prophètes. Donc, en quelques siècles, la charia est devenue synonyme du droit des juristes. Ceci influence la discussion jusqu'à aujourd'hui. Je vais y revenir. Mais revenons sous un angle différent à cet aspect sacré du droit. Les normes fixées par l'herméneutique juridique propre à chaque école juridique, qui ne peut pas être changée par les juristes contemporains, ni par l'État en l'occurrence. Ces normes, ou si vous voulez, ces lois, n'ont pas changé depuis 1000 ans. Et elles ont fait partie intégrale du droit appliqué du 8e jusqu'au 19e siècle. Le changement légal, lent et parfois imperceptible, était possible grâce à une certaine marge de manœuvre dans l'application du droit sacré. D'une part, par le recours à une casuistique extrême permettant les solutions variées dans des cas très similaires, d'autre part, par le statut spécifique de la réponse juridique, fatwa. La fatwa en arabe constitue une réponse d'autorité dans un cas spécifique qui est valide légalement sans être contraignant, sauf si cette opinion juridique est adoptée dans le cadre d'un jugement du tribunal. Alors, les juristes ont pu élaborer les solutions nouvelles pour des cas d'espèces inédites, sans que les bases sacrées du droit ne soient touchées. Un autre point, disons. Droit et politique. Dans l'histoire, le droit sacré des juristes n'a jamais couvert tous les domaines politiques et administratifs, notamment les institutions étatiques, bon nombre d'impôts ou taxations, etc. Ils sont restés en dehors du cadre des règles sacrées. Quant à la revendication du droit musulman comme autorité légale suprême, comme dans tout le système du droit ailleurs, d'ailleurs, ceci n'a pas posé un problème de fond. Le FIQ prévoit dans son évaluation d'actes humains la catégorie des actes neutres ou indifférents, moubar. Ceci signifie qu'il y a des actes non réglés par le FIQ et que d'autres instances pourraient réglementer, en l'occurrence le souverain ou l'État. D'autre part, la légitimité de l'État prémoderne en tant qu'État islamique dépendait de son rôle de garant de la normativité islamique. J'insiste sur le mot garant de la normativité islamique, parce qu'il y a un autre concept qui est celui de la gouvernance en accord avec la charia. En arabe, assiyas al-sharia. Je vous en parle parce qu'il est très connu et propagé aujourd'hui. Ce concept de la gouvernance en accord avec la charia apparaît au sein de l'Empire mamelouk au XIVe siècle dans un contexte très précis qui n'a rien à voir avec l'usage d'aujourd'hui. Pendant les premiers siècles de l'islam, les juristes avaient admis l'idée que les dirigeants politiques, imams, sultans ou émirs, ils avaient besoin et le droit aussi de s'éloigner des règles du fiqh dans le but d'arriver à une gouvernance efficace. Par exemple, une taxe supplémentaire non canonique selon le fiqh pouvait se justifier par une nécessité politique en dépit de la loi islamique. Par contre, dans les concepts de la gouvernance chariatique, c'est-à-dire siyasa sharia, développé par le juriste Ibn Taymiyyah et par son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya au XIVe siècle, la gouvernance islamique n'entrait pas en conflit avec la loi islamique. Comment est-ce possible? Les auteurs de cette doctrine proclament une conception plus large de la normativité islamique, plus large que les règles du fiqh, les droits des juristes. Selon Ibn Taymiyyah, s'il y a un conflit entre normes légales du fiqh et la gouvernance, il y a deux possibilités. Première, c'est que le fiqh est interprété d'une façon trop restreinte qui néglige les possibilités de la charia en vue de l'intérêt public, ou bien, deuxième cas de figure, et ici l'erreur est due aux dirigeants qui ne tiennent pas assez compte de la volonté divine et agissent de façon injuste. Selon ce concept de normativité islamique élargie, le bien qui doit être ordonné et l'abomination qui doit être interdite font partie de la normativité islamique, qui dépasse les normes légales proprement dites. Si c'est trop abstrait, voici un exemple. En aucun cas, le fiqh musulman n'exige des femmes musulmanes de se voiler comme condition légale préalable à l'exécution des devoirs religieux. Le voile en tant que signe pour une femme musulmane bien est fondé sur les coutumes et plus précisément sur l'exemple des femmes du prophète Mohammed. Imposer aux femmes le voile au nom de l'islam nécessite une vision élargie de la charia, de la normativité islamique. À l'époque d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim al-Jawziyya au XIVe siècle, leurs idées ont été largement rejetées par les juristes musulmans, pour qui l'interprétation légaliste correspondait à la charia. Ils n'avaient rien à faire avec cette gouvernance chariatique. Pour eux, la vision élargie de la gouvernance islamique ne faisait pas, disons, ça atteint à leur travail aussi. Et pendant plusieurs siècles encore, le droit des juristes a continué d'être pratiqué à côté du droit étatique, notamment les canons dans l'Empire ottoman. Le mouvement réformateur des Wahhabites au XVIIIe siècle a exhumé Ibn Taymiyyah et le concept de la gouvernance islamique. Les Wahhabites, ils critiquaient le droit des juristes, qu'ils jugeaient pas assez religieux et trop formaliste dans son insistance sur les aspects extérieurs des cas judiciaires. Aujourd'hui, la gouvernance islamique se détache des doctrines de l'ancienne casuistique des écoles juridiques. Les réformes légales au cours du XIXe et XXe siècle ont profondément bouleversé l'ancien système sur le plan institutionnel et juridique. En conséquence, les mécanismes de la production des normes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, l'État a pris le rôle de législateur d'un droit qui se veut islamique, ce qui n'existait pas avant. Je ne juge rien, je fais des constats. Un dernier mot, appliquer la charia en tant que droit divin relève du non-sens juridique. Pourquoi ? Les normes dites de la charia, notamment les délits coraniques et certaines pratiques prophétiques, ont été identifiés en tant que règles juridiques par le droit musulman pendant un processus d'interprétation. En tant que loi isolée, elles ne forment pas un système de droit. Pour pouvoir être appliquées, ils ont besoin de règles secondaires qui n'émanent pas des sources sacrées. Voilà. Alors, d'une part, la charia représente seulement une partie infinie d'un droit islamique. D'autre part, le nombre réduit de ces règles chariatiques laisse beaucoup d'espace pour une interprétation individuelle qui pose évidemment la question de sa légitimité. Pour conclure, je vous ai présenté une vision historique du droit musulman et son impact profond sur les sociétés musulmanes pendant plus de 1000 ans. Seule cette histoire, imprégnée par l'exercice continuel du droit islamique, a contribué à la réputation actuelle de la charia au sein des sociétés musulmanes. Aujourd'hui, le monde a changé. On verra ce que donne l'avenir. Et je vous remercie de votre attention.